Vous êtes avec SBS French.
Les principaux titres de l'actualité de ce samedi 27 juin. À Melbourne, la campagne à très grande échelle de dépistage du Covid-19 se poursuit. Aux États-Unis, très forte recrudescence du nombre de cas de coronavirus, en particulier dans les États du sud du pays. Et une polémique qui secoue la sphère politique pakistanaise après que le Premier ministre Imran Khan a déclaré que l'ancien chef d'Al-Qaïda, Oussama Ben Laden, était mort en martyr. Et on commence donc ce journal en prenant la direction de Melbourne, où aujourd'hui encore 10 000 personnes devraient être testées pour le coronavirus, et ce pour le troisième jour consécutif après le lancement d'une campagne massive pour laquelle l'armée australienne elle-même a été appelée en renfort. Puisque vous le savez, le nombre de nouveaux cas dans le Victoria est reparti en flèche depuis 10 jours. La seule campagne de dépistage d'hier, vendredi, a ainsi révélé 30 nouveaux cas positifs au coronavirus. Il y a au total 10 quartiers à Melbourne qui ont été identifiés par les autorités comme foyers d'infection. La campagne de dépistage d'aujourd'hui va se concentrer sur ceux de Broadmeadows et de Killor, où l'objectif est de tester la moitié de tous les habitants. Et puis cette recrudescence de nouveaux cas, elle devrait se poursuivre d'après les autorités sanitaires australiennes qui rappellent que des centaines d'Australiens doivent rentrer dans les prochains jours de l'étranger. C'est notamment le cas à Adélaïde en Australie méridionale où environ 300 personnes doivent arriver d'Inde au cours du week-end et où plusieurs centaines d'autres personnes devraient suivre en provenance, eux, d'Amérique du Sud et d'Indonésie. Alors en vertu des nouvelles normes en la matière, ces personnes seront testées dès le début de leur mise en quarantaine qui va durer 14 jours. Mais Stephen Wade, le ministre de la Santé d'Australie méridionale, estime que si l'arrivée de toutes ces nouvelles personnes invite évidemment à la prudence, il n'est néanmoins pas la peine de paniquer.
About 5-10% of travellers recently returned from the subcontinent have tested positive on their arrival in Australia. So if we were to see similar figures here in South Australia, we could expect up to 25 cases coming from these planes. But I want to stress that returning travellers are tested as they go into quarantine, they will be tested as they come out of quarantine, and they will be supervised from end to end.
Et sur le plan sanitaire, il y a une autre maladie qui continue de faire des ravages dans certaines parties du monde. Il s'agit de la tuberculose, à propos de laquelle le gouvernement fédéral a annoncé financer à hauteur de 8,3 millions de dollars 4 projets de recherche destinés à mieux lutter contre cette maladie qui résiste apparemment de mieux en mieux aux médicaments, en particulier dans les pays voisins de l'Australie qui se trouvent dans le Pacifique. Environ la moitié de cette somme va être dédiée aux recherches menées par le professeur Barend Marais de l'université de Sydney et dont les travaux se focalisent sur l'archipel des Kiribati qui est particulièrement touché par cette maladie. D'ailleurs, 60% des nouveaux cas de tuberculose dans le monde apparaissent chaque année dans la région Indo-Pacifique. Le ministre de la Santé, Greg Hunt, estime pour sa part que ces projets de recherche pourraient potentiellement sauver des milliers de vies. Direction maintenant les États-Unis où l'épidémie de coronavirus est très loin d'être terminée. Au contraire, même puisque ces derniers jours, on a enregistré une très forte hausse du nombre de nouveaux cas, en particulier dans les États du sud du pays. Le vice-président Mike Pence a d'ailleurs tenu une conférence de presse pour évoquer le problème. On écoute les explications de Lubna Anaki, correspondante à New York pour Radio France Internationale.
Cela faisait près de 2 mois que la task force de la Maison-Blanche n'avait pas fait de point public. Et pour Mike Pence, il est important de préciser, je cite, que le pays a réalisé de grands progrès depuis le début de l'épidémie grâce aux décisions du président Trump. Le vice-président a passé une grande partie de son allocution à se féliciter des résultats et de la relance de l'économie américaine. Et si certains États enregistrent des hausses importantes, c'est en grande partie en raison de l'intensification des tests, affirme Mike Pence, même s'il a sur-surveillé de près la situation dans les États du Sud comme l'Arizona. l'Arizona, la Floride et le Texas. Le Texas, où le gouverneur a annoncé aujourd'hui de nouvelles mesures. Il y a tout juste 24 heures, Greg Abbott écartait toute nouvelle fermeture des commerces. Aujourd'hui, il fait marche arrière et dès ce soir, les bars devront fermer leurs portes et se limiter uniquement aux ventes d'alcool à emporter. Les restaurants, eux, devront réduire leur capacité d'accueil à la moitié et le déconfinement est pour le moment mis en pause. Il faut dire que le Texas a vu ses chiffres de contamination quotidien doubler ces dernières semaines, avec un pic mercredi à plus de 6500 nouveaux cas. Mais pour l'instant, le gouverneur écarte toujours d'imposer le port du masque dans son état. Loubna Naki, New York, RFI.
En Grande-Bretagne, un homme a été abattu par la police après avoir blessé 6 personnes avec un couteau dans un hôtel de Glasgow, en Écosse. Cet hôtel est utilisé depuis le début de la pandémie pour loger des demandeurs d'asile, mais d'après les autorités, il n'est pas encore totalement établi que cela soit le motif de cette attaque. Et de son côté, Nicola Sturgeon, la première ministre écossaise, précise que la police, qui bien sûr poursuit son enquête, ne considère pour l'instant pas cette affaire comme relevant du terrorisme. Écoutez-la.
Clearly, there have been some tensions in Glasgow, as there have been in other parts of the UK in recent times. But I want to send a message to people across Glasgow and across Scotland. When dreadful things like this happen, they shock all of us to our core. But above all, they should remind us of what unites us and not what divides us.
On reste en Europe pour prendre la direction de la Serbie et plus précis et surtout, à vrai dire, du Kosovo. Là-bas, le Premier ministre Hashim Thaçi accuse la justice internationale de vouloir réécrire l'histoire alors que plus tôt cette semaine, la Cour pénale internationale l'a accusé d'avoir commis des crimes de guerre durant le conflit qui a opposé son pays à la Serbie. Et ce, alors qu'au même moment, les deux pays entre lesquels les tensions restent très vives devaient reprendre le dialogue sous l'égide des États-Unis à Washington. On écoute Jean-Arnaud de Reims.
Le sommet prévu ce samedi à Washington est bien sûr annulé, tandis que les Européens essayent de reprendre la main. Le président serbe Aleksandar Vučić s'est rendu vendredi à Bruxelles, où l'on évoque une reprise des discussions entre le Kosovo et la Serbie en juillet, mais sans préciser de date, tandis que l'idée d'une initiative franco-allemande qui déboucherait sur une rencontre à Paris n'est pas encore écartée. Reste à savoir qui rencontrera qui. Le nouveau gouvernement serbe devrait rapidement être formé après les élections du 21 juin, qui se sont soldées par une écrasante victoire du parti d'Aleksandar Vučić. Par contre, côté kosovar, toutes les hypothèses sont ouvertes. Hashim Thaçi, qui devrait enfin s'exprimer dimanche soir, ne semble pas disposé à démissionner, du moins tant que sa mise en accusation ne sera pas formellement confirmée par la justice, mais sa position risque vite de devenir intenable. Sa démission entraînerait automatiquement la convocation d'élections anticipées, tandis que le gouvernement d'Abdullah Hoti est très impopulaire. On évoque beaucoup à Pristina la formation d'un gouvernement d'union nationale, mais il sera certainement difficile d'éviter de revenir aux urnes, ce qui retardera immanquablement la reprise de ce fameux dialogue. Jean-Arnaud de Reims, Belgrade, RFI.
Et on quitte l'Europe maintenant en direction le Pakistan, où le Premier ministre vient de déclencher une polémique qui secoue tout le pays. Alors qu'il s'exprimait devant l'Assemblée nationale, il a estimé que l'ancien chef d'Al-Qaïda, Oussama Ben Laden, qui a été abattu en 2011 par les forces spéciales américaines dans la ville pakistanaise d'Abbottabad, était mort en martyr. Écoutez le récit de Sophia Ghezali pour RFI.
Imran Khan, debout dans l'hémicycle. Il s'exprime sur la relation entre son pays et les États-Unis.
Nous étions aux côtés des États-Unis dans la guerre contre le terrorisme. Mais ils sont venus ici et l'ont tué. Ils en ont fait un martyr.
Ces propos sont à l'origine de la controverse qui secoue le Pakistan depuis hier. Plusieurs opposants politiques font part de leur indignation, tel le chef de l'opposition à l'Assemblée, Khawaja Asif.
Aujourd'hui, ils ont déclaré qu'Oussama Ben Laden était un martyr. Cet homme a apporté le terrorisme sur nos terres. Il a détruit notre pays. Et vous l'avez déclaré martyr.
En tenant ces propos, Imran Khan est devenu une menace sécuritaire nationale, déclare pour sa part le porte-parole du PPP, parti de l'opposition. Si Oussama Ben Laden est un martyr, que sont les civils et les membres de nos forces de sécurité qui ont perdu la vie en martyr dans des attentats perpétrés par Al-Qaïda, demande-t-il. Souvenez-vous qu'Oussama Ben Laden est peut-être un héros pour le Premier ministre, mais il ne sera jamais celui de notre nation, réagit une sénatrice. Il restera un criminel aux yeux de l'État et du peuple, a renchéri Sheri Rahman. Sonia Ghezali, Islamabad, RFI.
Et Madagascar, le pays bien sûr, pas le film, a célébré hier vendredi le 70e anniversaire de son indépendance. Mais à vrai dire, depuis aussi longtemps que le pouvoir à Tananarive s'est affranchi de la tutelle française, il existe un conflit avec Paris à propos des îles éparses. Ce sont de petits îlots inhabités qui se trouvent entre l'île de Madagascar et la côte du Mozambique que Madagascar revendique mais qui sont depuis 1960 sous administration de la France qui, pour des raisons stratégiques, n'a absolument pas l'intention d'y renoncer. On fait le point avec Franck Alexandre de Radio France Internationale.
Depuis 60 ans, ces îles éparses empoisonnent les relations franco-malgaches, un différend qui concerne également l'archipel des îles Glorieuses, situées au nord de Madagascar, sans oublier Tromelin, plus à l'est. Des îles devenues françaises en 1960, quelques semaines seulement avant la déclaration d'indépendance. De modestes récifs coralliens inhabités, mais néanmoins une véritable blessure pour Madagascar qui a toujours revendiqué sa souveraineté. En 1979, la grande île a même remporté une première victoire, puisqu'une résolution de l'ONU a enjoint le gouvernement français à entamer des négociations en vue d'une restitution de ces archipels. Paris n'a jamais donné suite à cette décision non contraignante. En 2007, les éparses ont été rattachées aux terres australes et antarctiques françaises, et mis à part la présence de quelques militaires français, ces récifs coralliens sont devenus un véritable sanctuaire de la biodiversité. Mais les éparses représentent pour la France bien plus qu'une simple réserve naturelle. Ces îles, aussi microscopiques soient-elles, permettent de prendre la main sur une immense superficie maritime, un territoire qui couvre les deux tiers du canal du Mozambique et assure ainsi le contrôle de cette voie maritime stratégique.
Et on finit ce journal avec un point sur la météo de ce samedi en Australie. Il fait 21 degrés à Perth qui devrait passer une partie de la journée sous la pluie. Soleil en revanche à Adélaïde avec 16 degrés, 14 degrés à Melbourne où le ciel est nuageux. Idem à Sydney où le thermomètre affiche 17 degrés. En revanche 23 à Brisbane et même 26 degrés à Cairns. Et jusqu'à 32 degrés à Darwin où comme très souvent il fait aujourd'hui très très beau.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.